Retrouvez tout de suite Radio Alpa en escalade, présenté par Charlie Pless.
Bonjour et bienvenue sur Radio Alpa 107.3 Le Mans pour cette escalade en direct de l'Espal, scène nationale, pour la journée de la pensée joyeuse dans le cadre du temps fort vivant-vivante. Une journée qui s'intéresse cette année au rapport entre la vie et la mort, aux souvenirs, au deuil, à la mémoire, à nos rituels et toujours dans une démarche multidisciplinaire. Activités, tables rondes, balades insolites et expositions, Virginie Bocard et Julie Lecomte, directrices et directrices adjointes de la scène nationale Les Quinconces et Les Spales, nous présenterons cette journée riche et cette thématique qu'on peut d'ailleurs trouver étonnante. Pourquoi parler de la mort pendant un temps fort sur le vivant? On verra tout ça avec elle et on dira aussi un mot du dernier spectacle de théâtre de la saison, Tatiana, de Julien Andoujar. Julien Andoujar qui participe cet après-midi à une table ronde avec deux autres intervenants et notamment notre invité suivant, l'artiste Sylvain Vavran, pour parler de son exposition Reliquat, exposée depuis mars et jusqu'en juillet à l'Espal. C'est un élément de la programmation de la scène nationale et surtout du temps fort vivant-vivante. Une visite guidée par l'artiste lui-même est prévue pour cette journée de la pensée joyeuse. On enchaînera avec le troisième intervenant de la table ronde, Grégory Nieuviard, et conseiller funéraire et célébrant de cérémonie. Il nous présentera la coopérative funéraire de Rennes qu'il a cofondée, une solution alternative pour dire adieu à nos proches et qui permet peut-être d'inventer de nouveaux rites. Nous accueillerons ensuite le groupe Philosophie Sarthe, comment philosopher avec les enfants, comment réfléchir avec eux sur le souvenir, la mémoire, quel rapport les enfants entretiennent-ils avec la mort. L'association organise trois ateliers philo pour le jeune public cet après-midi. On en parlera avec les deux intervenantes. Et enfin, on terminera cette émission avec les assos L'Arc-en-Ciel et l'Happy End Asso, deux associations qui accompagnent et libèrent la parole du deuil à travers par exemple les apéros de la mort, des rencontres pour échanger sur ces expériences de deuil et sortir de l'isolement. Il ne reste plus qu'à commencer cette émission spéciale journée de la pensée joyeuse pour le temps fort vivant vivante de la scène nationale et Quinconces Les Spales.
Vous écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
L'alternative.
On commence donc avec Virginie Bocard et Julie Lecomte, respectivement directrice et directrice adjointe de la scène nationale Les Quinconces et Les Spales. Alors tout d'abord, rappelez-nous quel est l'objectif de ces journées de la pensée joyeuse organisées régulièrement pendant la saison.
L'objectif de ces journées de la pensée joyeuse, c'est de travailler avec des associations qui sont installées ici dans la ville et bien dans le quartier du Mans, et puis d'ouvrir, de compléter la programmation pluridisciplinaire sur d'autres rendez-vous qui sont soit des temps de discussion, soit des ateliers avec la population. Et donc ça s'adresse aux enfants, aux familles et également aux adultes. Donc c'est un complément de ce qui se joue sur nos plateaux.
Oui, parce que donc il y a des ateliers, des rencontres, débats, des visites d'expo. C'est une journée qui permet de diversifier les activités de la scène nationale, de faire en sorte que le théâtre ce soit aussi un lieu de rencontre.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est aussi, on ouvre, tout est gratuit. Vous voyez, là, les gens sont en train de, les familles, on les voit, sont en train de rentrer dans la salle. Peut-être des gens qui viennent pas habituellement. Et c'est de pouvoir expérimenter, de jouer avec la créativité, jouer avec les imaginaires. On co-construit vraiment cette journée avec les associations. Donc, c'est pas un programme que de la scène nationale. C'est vraiment co-construit. Qu'est-ce qu'elles ont envie d'amener? Qu'est-ce qu'elles ont envie de proposer? Et puis, ça permet effectivement à des publics qui viennent certainement pas d'habitude ou des personnes qui ne viennent pas d'habitude de passer la porte et de venir découvrir sur une thématique donnée ce que peut proposer la scène nationale et les associations.
Alors, on va y venir à cette thématique parce que cette journée intervient dans le temps fort vivant-vivante, quatrième et dernier temps fort de la saison de la scène nationale. Mais alors, cette année, c'est assez particulier pour le temps fort qui s'appelle vivant-vivante. Vous avez choisi le thème de la mort. Alors, expliquez-nous.
Oui, enfin, c'est particulier, mais je voudrais juste dire qu'il y a, comme les autres, humains et non-humains en elle qui interrogent ou les travailler autour de l'œuvre de Christian Bobin. Et donc là, cette année, effectivement, avec des artistes qui sont programmés, la coopérative funéraire de Rennes, qui n'est pas très loin de ces moments-là de la vie, peut-être autrement, avec des artistes et des personnes qui travaillent au quotidien.
Et donc, par exemple, au cœur de cette journée, il y a l'exposition Reliquat de Sylvain Vavran, une exposition visible à l'Espal depuis fin mars jusqu'au 11 juillet. Alors, on va en parler plus en détail avec l'artiste dans quelques minutes. Mais avant ça, Virginie Bocard, Julie Lecomte, pourquoi avoir choisi de mettre en avant cette exposition, de lui donner une telle place en particulier dans ce temps fort vivant-vivante ?
La rencontre avec Sylvain, je dirais qu'elle a été bien au-delà de nos espérances. C'est presque comment le réel de ce que traversait Sylvain à un moment donné fait que quand je l'appelle, je lui dis j'aimerais qu'on se rencontre pour penser à un projet à venir. Et à ce moment-là, la question de la mort faisait partie de sa réalité. Et puis, Sylvain est quelqu'un qui travaille beaucoup dans le champ du spectacle vivant, mais également, il est artiste, plasticien, taxidermiste. Et il y a une évidence, en fait, une évidence à cette rencontre. Il y avait presque même quelque chose qui nous portait bien au-delà de la nécessité de travailler ensemble. Donc voilà, et parfois, les choses sont évidentes. Et elles disent et elles soutiennent vraiment une ligne éditoriale et le projet d'établissement qui est le nôtre. Et il me semble que c'est aussi la responsabilité de nos institutions, des théâtres publics, de pouvoir ouvrir à un moment donné à des sujets qui sont soit pas pensés, soit un peu tabous, et donc de pouvoir les révéler et de s'associer avec des artistes, des penseurs, des penseuses, et puis donc des personnes dont c'est le quotidien.
Et en plus de l'exposition de Sylvain Vavran, il y a plein d'autres choses à voir et à faire sur cette journée de la pensée joyeuse, et on pourra même visiter un cimetière, c'est ça ?
Alors malheureusement, il fait trop chaud.
Ah là
c'est-à-dire
là,
que là, les visites, il y avait deux visites organisées avec l'Office du tourisme de Le Mans Métropole, qui était une très belle proposition, qui a rencontré du succès parce qu'il y avait 50 inscrits. On devait proposer aux gens de visiter le cimetière de l'Ouest, puis d'aller en vélo jusqu'au cimetière Sainte-Croix et de finir à l'Espal avant la rencontre. Mais en fait, les chaleurs font qu'être dans un cimetière à 14h aujourd'hui, c'est pas prudent.
Et donc, là, il n'y avait pas d'adaptation possible.
Non, en fait, on a réfléchi, mais finalement, on va le faire, mais à un autre moment, à une date de report ultérieure, où il fera une température plus acceptable et plus correcte pour les gens qui vont le faire.
Donc tout se passe à l'Espal, finalement.
Tout se passe à l'Espal, tout à fait.
Et puis Vivant, Vivante, rappelons-le, c'est aussi une programmation de spectacle. Imaka ici peut-être, co-réalisé avec Le Plongeoir dans le cadre de Le Mans fait son cirque, qui est là, Larzac, The Love Behind My Eyes. Comment vous l'avez construite, cette programmation du temps fort ?
Alors justement, dans cette programmation, il est pas question que de la mort en fait, hein, puisque le spectacle qui va jouer ce soir à Rue Audin, Larzac, parle du mouvement qui est né dans les années 70 sur ce plateau-là et la résistance qui s'est passée avec certains et certaines paysans et paysannes. Comment on le travaille ? Ben en fait, comme on le travaille une programmation à travers des rencontres avec des propositions artistiques qui sont fortes et qui font sens dans la ligne éditoriale de ce vivant, vivante. Donc il y a des spectacles qui se répondent, d'autres un peu moins, mais l'idée, en tout cas, on est vraiment sur cet axe-là de convoquer nos relations entre les êtres vivants et à travers des regards artistiques qui nous semblent essentiels de défendre sur les plateaux ou hors les plateaux, puisqu'on a été à Bernay à Champagne, on était également hier soir à Rouillon au lycée agricole et ce soir dans la ferme d'un paysan sartois.
Et il reste encore un spectacle à voir dans le cadre de ce temps fort, pardon, c'est Tatiana, c'est même la dernière pièce de théâtre de la saison. Alors on a déjà pu assister à une forme de transformisme en mars avec Madame Osbachung et le spectacle réalisé avec les étudiants de l'Institut National du Music Hall. Est-ce qu'avec Tatiana, on est là aussi dans la créature, l'exubérance, ou c'est une autre approche qui est proposée ?
On est complètement dans la créature, dans la transformation aussi des corps avec Julien Andujard qui est un artiste qui est installé ici en région. On a une grande chance, hein, il vit pas très loin, il vit à Nantes. Et Tatiana, ça a été un des coups de cœur l'an dernier quand on l'a découvert au Théâtre du Rond-Point à Paris. Il nous raconte la disparition de sa sœur Tatiana qui a disparu il y a plus de 20 ans et aujourd'hui on ne sait toujours pas où elle est. Donc ça a fait la une des faits divers. Et donc il aborde sa disparition et sa perte, alors avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de gravité, mais aussi parfois avec beaucoup de légèreté et d'humour. Et donc, ça nous permet donc de traverser avec lui la perte d'êtres qui nous sont chers et comment on peut le transcender, comment le plateau peut aussi le transcender. Et c'est un spectacle qui nous fait du bien, qui est un des coups de cœur de l'équipe. Il y a 3 soirs. Il y avait une très forte demande, donc on va le jouer pendant 3 soirs ici à l'Espal. On l'a déplacé du petit théâtre des Quinconces pour venir jouer ici au plateau. Et donc, je recommande à toutes celles et tous ceux qui ont envie de finir la saison en beauté de venir voir Tatiana la semaine prochaine.
Et d'ailleurs, on pourra rencontrer Julien Doujard cet après-midi lors d'une table ronde. On va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Je vous remercie Virginie Bocard et Julie Lecomte, directrice et directrice adjointe de la scène nationale Les Quinconces et l'Espal. Et donc, Tatiana, c'est du 3 au 5 juin au Quinconces. Il faut donc patienter encore quelques jours. Mais pour l'instant, on peut déjà visiter et jusqu'en juillet l'exposition Reliquat. Difficile de décrire cette expo, alors demandons à notre prochaine invitée.
Vous écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
L'alternative.
Depuis le 21 mars et jusqu'au 11 juillet, vous pouvez visiter l'exposition Reliquat à l'Espal. Et pour cette journée de la pensée joyeuse, une visite guidée est organisée à 15h30, peu après la fin de cette émission donc. Et dans cette divine comédie, votre Virgile ne sera autre que l'auteur de l'exposition, Sylvain Vavran. Bonjour.
Bonjour.
Votre exposition Reliquat, elle apparaît assez centrale dans cette journée de la pensée joyeuse, autour de la mort, de ses rapports avec la vie. Alors d'abord, peut-être pour mieux comprendre votre démarche, intéressons-nous au titre. Reliquat, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors tout simplement, reliquat, c'est ce qui reste en latin. Et ce qui reste, évidemment, la matière qui peut rester, mais aussi les personnes qui restent vivantes après un décès, un deuil. Pour moi, c'est une espèce de laboratoire à la fois de production, de pensée, de recherche. Qui prend la forme peut-être de l'atelier du dieu Anubis. Je me suis très inspirée par la mythologie égyptienne et notamment après un très beau voyage l'année dernière avec une amie qui a été fondatrice pour moi et qui nous a quittés depuis, ce qui fait écho à ce que disait Virginie tout à l'heure. Donc ce voyage et ce décès qui a fait naître ce projet d'exposition qui est comme une espèce d'hommage pour cette personne et d'autres personnes que j'ai perdues. Et j'ai conçu vraiment ce laboratoire comme un moyen de tester des choses, un moyen de finaliser des œuvres que j'avais déjà en tête. Il y a des reliques d'enfance, il y a des reliques il y a quelques mois. J'ai des matériaux, des objets aussi qui ont appartenu à cette amie que j'ai décidé de transformer, de réifier ou de déifier, ça dépend les angles. En tout cas, on est dans une accumulation d'objets, de sculptures, de dessins, de photographies, de tentatives plastiques comme ça qui viennent raconter ce qui reste, en tout cas ce qui me reste de ces personnes disparues. Et tout ça est teinté d'Égypte antique, de mythologie, d'hybridation, parce que je travaille constamment avec le règne animal, avec la taxidermie, avec
Alors, voilà. on va revenir sur plusieurs de ces points dans la suite. D'abord, vous l'avez évoqué, donc vous avez parlé de votre ami. Il y a aussi un hommage à votre père qui est rendu sur cette exposition. Donc, ça part d'expériences vécues. Pourquoi ça vous a semblé nécessaire de créer de l'art à partir de ces deuils, en fait ?
Ça, j'aurais du mal à vous l'expliquer. Il y a, comme tout à l'heure, on parlait d'évidence. Il y a un moment donné, il faut que ça sorte. Et je ne sais pas tellement bien écrire, je ne sais pas tellement bien parler non plus. Alors, j'essaye d'être un peu meilleur dans...
Ça va, vous en sortez.
Merci. Dans la création plastique, en fait, j'ai des idées, des pensées qui me viennent et j'ai besoin de les sortir. Il faut que ça passe par la matière. Et généralement, ça passe par la matière organique ou une matière qui est mouvante et par la récupération aussi beaucoup. J'ai une jolie tendance à accumuler à la fois des objets et des souvenirs. Je vis un peu dans le passé parfois et du coup,
Mais comment vous les accumulez d'ailleurs, tous ces objets ? Comment vous constituez votre matière première ?
Dans les brocantes, c'est des objets qui sont issus de la famille aussi, de dons, de cadeaux, de choses trouvées. Par exemple, ça peut être un oursin sur la plage ou un petit coquillage, une pierre, un bouchon de bouteille d'une soirée. J'ai tendance à vraiment accumuler tous les vecteurs de souvenirs. Pour plein de gens, ça n'a aucune valeur, mais pour moi, c'est vraiment des catalyseurs de pensées, de souvenirs, d'émotions. Et j'ai besoin d'être entouré de tout ça. Et
toujours en tête d'en faire quelque chose aussi ou pas forcément ?
Pas forcément, mais en tout cas, si vous venez chez moi, par exemple, c'est un vrai cabinet de curiosité. Il y en a partout, tout est saturé du sol au plafond. Mais c'est un moyen pour moi d'extérioriser tous ces, tous ces souvenirs, de les accrocher au mur. C'est comme si je naviguais dans mon imaginaire, dans mon cerveau, et au moins c'est plus à l'intérieur. Il y a un truc un peu thérapeutique là-dedans. Mais
vous ne travaillez pas seulement avec des objets, puisque vous faites aussi de la taxidermie. Qu'est-ce que vous cherchez à dire à travers cette pratique?
Alors ça, je suis en train de l'analyser petit à petit aussi. Ça fait 15 ans que j'utilise ce médium. En fait, j'ai grandi en Sologne. Mon père était cuisinier et mes parents travaillaient dans les repas de chasse. Donc il y avait beaucoup de taxidermie à la maison qui était donnée ou récupérée. Ou... C'était une espèce de tradition de faire naturaliser des animaux, donc j'étais un peu traumatisée pendant très longtemps, et en fait j'ai décidé après mes études aux Beaux-Arts de réactiver ce traumatisme et d'en faire quelque chose de plus formateur, dans le sens où j'ai pris conscience qu'il y avait pas mal de problématiques environnementales, notamment les animaux et les collisions avec les voitures, première cause de la faune sauvage, les collisions avec les fenêtres, avec les oiseaux, tout un tas de disparitions comme ça, et que ces animaux étaient décédés pour rien, et j'essayais simplement en tant qu'artiste, designer ou costumier, de transformer ces matériaux, ces matières, ces êtres pour essayer de raconter leurs histoires et de les remettre sur le devant de la scène, ce que je dis souvent.
C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser quand on voit l'œuvre d'un taxidermiste. Quel rapport il a avec ces animaux, ces dépouilles d'animaux, avec le monde animal en général? Est-ce que pour vous, c'est juste de la matière artistique que vous travaillez, ou est-ce qu'il y a une forme de dommage qui est rendu? Est-ce que c'est une
forme de double entrée pour moi? C'est vraiment, ça peut être de la matière quand j'ai un projet qui est déjà en tête, et vraiment une rencontre quand, tout simplement, c'est aussi une opportunité, une rencontre de vivant à vivant, enfin malheureusement avec un être décédé, mais c'est tellement précieux, tellement émouvant que je ne peux pas ne pas congeler cet animal, puis le naturaliser plus tard pour en faire quelque chose. Mais j'avoue que parfois, c'est de ramasser un oiseau, de récupérer ses plumes, parce que j'ai en tête une parure ou un costume à faire pour un metteur en scène ou une metteuse en scène. C'est de l'ordre de la récolte. Et c'est comme chiner des objets, c'est aussi chiner de la matière comme ça, et par la technique de la taxidermie. Donc on peut vraiment tanner les peaux et les protéger contre le temps et les bestioles. Et c'est un moyen de générer ma propre matière première aussi. Il y a une dimension un peu écolo là-dedans que j'aime beaucoup et que je commence à maîtriser. C'est vrai que ça fait partie de mon médium de travail depuis 15 ans maintenant. On retrouve l'animal, la mythologie, les métamorphoses, tout ce caractère homme-animal qui est omniprésent dans mes créations, je crois.
Et avec tous ces éléments, donc, vous construisez, vous élaborez l'exposition Reliquat. Vous avez parlé de laboratoire. C'est vrai que d'ailleurs, dans l'exposition même, il y a une table qui ressemble clairement à un laboratoire un peu fou, avec plein d'objets divers et variés. Plus qu'une accumulation d'objets indépendants, est-ce qu'il faut voir Reliquat comme un tout? Est-ce que chaque objet est composant d'une œuvre globale?
Non, il faut voir ça plutôt comme une expérience globale, parce qu'on a aussi créé une bande sonore qui réinterprète le mythe d'Osiris et d'Isis. Je laisserai le public se pencher là-dessus, mais il y a une bande sonore, il y a une composition musicale, j'ai également fait une performance pour le vernissage qui va être bientôt intégré à l'exposition. Il y a ce laboratoire, c'est établi avec tous mes outils. En fait, j'ai décidé de faire un espèce d'instantané. Je déteste les white cubes et les endroits qui sont trop scénarisés. Je voulais que le public rentre un peu dans mon atelier et complètement... En fait, concrètement, je pourrais continuer à travailler dans l'atelier et on pourrait venir me voir presque. Je voulais avoir cette présence-là et je voulais qu'on soit dans l'atelier d'Anubis, le dieu embaumeur, le premier embaumeur. C'est un personnage que j'incarne grâce à un autoportrait avec un masque de chacal, et je trouve que c'est un personnage qui me correspond bien dans la mesure qu'il fait le lien entre les morts et les vivants. Et à l'étage, vous avez toute une autre partie de l'exposition où on est dans le Haru, le paradis égyptien, ça veut dire le champ des roseaux, où là on retrouve des œuvres qui sont plutôt dédiées à la vie d'après, alors qu'en bas on est plutôt dans l'endroit de la momification, de la naturalisation, du souvenir, des masques funéraires.
Vous avez parlé d'Anubis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de créatures qui apparaissent dans votre travail, des chimères, des divinités. Donc effectivement, toute la divinité de l'Égypte antique est présente, vous en avez parlé. Et pourtant, c'est vrai que vous travaillez avec de la matière, avec des corps, mais cependant, la dimension spirituelle et mystique, elle est très présente.
Oui, je suis un peu magicien, en tout cas j'aime cet univers-là, un peu fantastique, un peu ésotérique. Et plus que ça, je crois que chaque objet, chaque matière porte en lui, en elle, une symbolique. Tout comme on peut parler de la symbolique des couleurs, on sait que la croix ankh, la croix égyptienne, est symbole de vie éternelle. Le scarabée peut être symbole du cœur battant, du cœur qu'on va faire, qu'on va transférer aussi dans le monde des morts. Chaque matériau, vraiment chaque objet peut raconter sa propre histoire. Donc oui, il y a cette dimension spirituelle ou en tout cas symbolique qui est très présente dans mon travail.
Et il y a une autre entité, si j'ai bien compris, qui habite votre réflexion, c'est Amout. Alors, qui est Amout ?
Ah, Amout. Il y a plein de personnes qui ont peur d'elle, mais en fait, c'est une créature hybride qui a une tête de crocodile, un corps de lion et un arrière d'hippopotame. Ce sont les trois animaux qui faisaient peur, qui étaient un peu dangereux en Égypte antique, tout simplement parce qu'on pouvait se faire dévorer. Mais en fait, Amout, dans le Livre des Morts, qui est un peu le guide spirituel pour passer dans l'au-delà, pour tous les pharaons ou les gens du peuple en Égypte, doivent poser leur cœur sur une balance, la balance de Mat, et qui est posée en équilibre contre une plume, la plume d'autruche, qui est le symbole de Mat, déesse de l'équilibre et de la justice. Et en fait, si votre cœur est plus lourd que la plume, il finit dévoré par cette créature qui s'appelle Amout. Et finalement, vous ne pouvez pas aller dans l'après-vie. Et c'est ce dont avaient grandement peur les Égyptiens, c'était de ne pas pouvoir avoir cette période de résurrection et cette après-vie. Donc on faisait en sorte d'avoir une très belle vie. Et le Livre de Mort nous donnait toutes les clés, toutes les triches, les petits tips pour pouvoir passer devant...
devant
Amout et devant Anubis.
En fait.
Ouais, exactement, ouais.
Alors, on peut donc toujours visiter votre exposition à l'Espal jusqu'au 11 juillet. Mais sur cette journée de la pensée joyeuse, on peut même profiter d'une visite guidée avec vous. Alors, ça se passe comment ? De quelle manière est-ce que vous faites le guide ?
Eh bien, un peu comme de la même manière qu'on a échangé là présentement. Mais je vais aller un peu plus en profondeur. Je vais parler un peu plus de mon enfance, de mes projets, de comment j'en suis arrivé là. Et il y a beaucoup de références très familiale, très personnelle à chacune des œuvres. Donc on va déambuler dans l'exposition du rez-de-chaussée à l'étage pendant une heure. Et puis ça va être sous forme aussi d'une discussion un peu ouverte, parce que c'est des sujets évidemment qui moi me touchent. Mais je pense que, j'espère en tout cas que les œuvres peuvent générer de l'émotion auprès du public de la même manière qu'elles me touchent moi, quoi. Donc ça va être assez simple, c'est une heure de déambulation et d'échange autour de la création, du deuil, de l'antiquité.
Je vous remercie Sylvain Vavran, artiste plasticien et taxidermiste. On vous retrouve aussi plus tard dans la journée à 17h30 pour une table ronde avec Julien Doujard, auteur et interprète du spectacle Tatiana qui jouera du 3 au 5 juin au Quinconce. Également avec Grégory Nieuviard, également avec nous sur ce plateau et vers qui nous allons donc nous tourner.
Vous écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
L'alternative.
Bonjour Grégory Nieuviard, vous êtes conseiller funéraire et célébrant de cérémonie, cofondateur et co-directeur de la coopérative funéraire de Rennes. Vous intervenez sur cette journée de la pensée joyeuse comme intervenant sur une table ronde autour de la créativité et des nouveaux rituels funéraires. Une réflexion très en lien avec votre activité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la coopérative funéraire de Rennes ?
Je vais faire un peu comme Sylvain. On va se raconter des histoires. L'histoire, elle commence un peu dans les années, on va dire, 60 au Québec, où des petites communautés, en fait, vivaient un peu partout. Et ils se sont retrouvés, en fait, ces communautés plutôt religieuses au départ, mais ils se sont retrouvés, en fait, avec des entreprises de pompes funèbres américaines qui arrivaient sur leur territoire et qui sont mis à racheter les entreprises de pompes funèbres. Et à un moment donné, ils se sont vus presque dépossédés, en fait, de cet endroit-là. Et donc, ils se sont regroupés au sein de coopératives. Ils ont racheté, en fait, des entreprises. Et ont occupé le territoire et ont fait de manière à faire baisser l'ensemble des prix, ce qui fait que tout ce secteur financier américain, eh bien, il s'est barré parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de profit à faire là-dedans. Et petit à petit, en fait, aujourd'hui, les coopératives au Québec, c'est vraiment une institution très présente. C'est sur certains territoires, c'est même presque des leaders sur un certain territoire. Et donc, ça, une coopérative, c'est au Québec, c'est presque quelque chose de naturel. En France, il y a une forme de culture à aller chercher là, c'est l'idée que comment des citoyens ou des citoyennes à un moment donné se réapproprient d'un secteur pour envisager en fait que ce secteur-là, enfin l'endroit où on l'investit, puisse rendre service à ses membres. Et donc, on s'est dit que il y a une première coopérative qui s'est montée en France, à Nantes. Ça, c'était la première coopérative. Et puis après, là, nous, on est arrivé un peu après à la coopérative funéraire de Rennes. Et donc, maintenant, ça fait depuis 6 ans que la coopérative funéraire de Rennes a ouvert.
Et donc, l'idée... ça marche, vous rencontrez un engouement ?
Alors, je vais vous dire, ça marche très bien. Est-ce que ça fait mourir les gens ? Pas trop. C'est juste qu'en fait, on s'est inscrit, une coopérative funéraire s'inscrit sur un territoire. Et sa raison d'être, on dirait, c'est de servir ce territoire et de trouver les moyens à la fois humains, on va dire, à la fois techniques, mais aussi dans comment elle peut œuvrer, de manière à ce que, par exemple, le sujet de la mort puisse devenir un sujet qui sorte des oubliettes, on va dire, et puisse avoir le droit de citer avec un C. Et donc c'est comment, à un moment donné, elle construit un espace où les gens se sentent en sécurité et à même de pouvoir prendre eux-mêmes leurs décisions. Donc ça se traduit de cette façon-là. La coopérative funéraire de Rennes s'est construite sur 2 piliers. Le premier pilier a été comment on envisage d'avoir les moyens techniques et humains pour pouvoir faire de manière à ce qu'on puisse organiser les obsèques et accompagner les familles dans l'organisation des obsèques.
C'est-à-dire accompagner les familles, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que c'est comment on arrive à faire de manière à ce que chacun et chacune, dès lors que quelqu'un vient décéder dans sa famille, on a toujours besoin on a besoin des services d'une entreprise de pompes funèbres. Nous, on s'est dit comment on pouvait valoriser le temps et comment on allait pouvoir valoriser l'accompagnement des familles et comment on allait pouvoir faire de manière à ce que les familles elles aient accès à l'information, de manière à ce que ce soit elles qui puissent faire les choix en conscience, de manière éveillée. Donc, en fait, on a construit un espace où y a des outils qui ont été mis en place. On a créé une carte de navigation, par exemple. On a mis en place, économiquement parlant, ce qu'on appelle un forfait accompagnement qui nous permet, nous, de ne pas être en relation avec les familles à vouloir survendre de quoi que ce soit, mais plutôt à être dans l'accompagnement, puisque ce forfait intègre tout le temps qu'il va y avoir pour accompagner une famille dans l'organisation des obsèques. C'est succinctement à peu près ça sur ce pilier-là, quoi.
Et donc ça implique de sortir, on va dire, du cadre institutionnel des obsèques, d'aller chercher d'autres formes, d'autres manières de célébrer les morts ?
On va dire que la philosophie presque proche d'une coopérative, en tout cas la mienne, et je pense que celle d'Isabelle aussi au départ, et des fondatrices de la coopérative à Rennes, on pourrait dire qu'elle s'est construite sur l'indignation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se ressaisisse d'un certain secteur qui, aujourd'hui, si vous regardez en France, il y a un phénomène de concentration qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que toutes les entreprises de pompes funèbres, petit à petit, sont rachetées par des grands groupes. Et vous pensez des fois aller dans une petite entreprise de pompes funèbres gérée par un indépendant. En fait, cette petite entreprise n'appartient plus à l'indépendant qui est parti à la retraite et qui a été racheté par un grand groupe. Et donc, petit à petit, en fait, ils occupent un territoire qui est énorme. Donc, pour caricaturer un peu l'affaire, ce que je dis aux gens souvent, c'est quand vous allez faire vos courses avant, vous allez soit au centre Leclerc, soit au Carrefour. Bon, on a créé un peu la petite coopérative bio du coin. Et comme ça, en fait, tout le monde a le choix et peut avoir, se diriger soit vers l'un ou l'autre. Quoi.
Alors, vous l'avez évoqué, un des éléments majeurs de votre démarche, c'est de prendre le temps. Est-ce que ça ne rentre pas en confrontation avec le cadre imposé par la loi pour des obsèques ? Parce que, il y a quand même, justement, un certain nombre de jours à respecter entre le moment du décès et le moment des obsèques, non ?
Très bonne question. En fait, au moment où on a commencé à œuvrer, il y a 6 ans, on était un peu en relation de la même manière que chacun, nous, en fait, on est en relation avec cette question de la mort. En fait, on est un peu en sidération, c'est-à-dire qu'on pense que presque tout est impossible et que même le cadre légal, en fait, contraint plutôt que permet. Et en fait, c'est tout le contraire. On s'est approprié petit à petit, en fait, on a découvert des chemins qui ont été suggérés par des familles. Un exemple concret, par exemple, une fois, un gars vient à la coopérative parce que on doit organiser les obsèques de sa femme. Et dans la manière d'organiser les choses, on dialogue. C'est même assez silencieux. C'est pas facile, on va dire. Et à un moment donné, il se retourne vers moi et il me dit « Mais au fait, le cercueil, je pourrais l'emmener chez moi. La boîte en bois, quoi, vide. » Et je le regarde, je dis ah, mais ça je sais pas. Je vais voir dans mon grand livre du cadre légal, et puis on se rend compte qu'en fait il y a rien qui restreint ce choix-là. Donc on lui dit bah allez-y. Et depuis ce jour-là, en fait, il a emmené le cercueil chez lui avec son copain. Ils ont capitonné le cercueil, c'est-à-dire qu'ils ont installé les tissus à l'intérieur avec sa fille. Il a pu voir, il a pu dialoguer avec elle, et puis ils ont dessiné, ils ont repeint le cercueil tout en blanc. Ils ont dessiné, ils ont fait les petites écritures qu'ils avaient envie, puis ils nous ont ramené le cercueil le jour où on devait partir après ensemble en cérémonie. Et en fait, c'est un certain nombre de chemins comme ça qui se sont ouverts petit à petit et qui nous ont démontré et qui ont poussé en fait les portes et qui nous ont démontré qu'en fait le cadre tel qu'on le pense en fait est beaucoup plus ample et nous permet de devenir de nous approprier de chacune des choses.
On rappelle que vous intervenez sur une table ronde autour de la créativité dans les rites funéraires aux côtés de deux artistes. Comment est-ce que vous vous complétez dans votre rôle de célébrant de cérémonie avec ces deux artistes? Vous êtes déjà concerté avec Sylvain Vavran et Julien Dougère pour préparer cette table ronde. Comment est-ce que vous complétez tous les trois? Quel regard complémentaire est-ce que vous apportez sur la question de la créativité dans les rites?
Ce que moi je trouvais, moi je suis très très content d'être là. Je suis même très impatient d'aller voir la visite de l'exposition de Sylvain. Pour moi, il y a un endroit d'exploration dans le cadre artistique qui permet de presque dépasser toutes les frontières. Et on peut aller dans l'exubération. Je pense que Tatiana va à peu près dans cet endroit-là, et que Sylvain, en fait, il explore des profondeurs où on a nos divinités qui arrivent là, mais il nous questionne justement sur notre rapport à la mort. Nous, dans le cadre de l'accompagnement des familles, on a quand même un cadre. Et il y a des endroits où il y a, à chaque fois qu'on accompagne une famille, il y a quelque chose qu'on ne doit jamais oublier, c'est qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Et donc, il y a une présence, et que c'est cette personne-là qui est au cœur, en fait, de ce qui va amener la communauté à se retrouver, à se réunir, et qui va œuvrer ensemble pour, à un moment donné, célébrer, en fait, ce qui doit être célébré. Et puis, je vais juste finir, comme ça, tu vas rebondir là-dessus. La cérémonie, les funérailles, pour moi, c'est une cérémonie qui nous transforme. Et on est vraiment au cœur de cette réflexion-là. C'est qu'est-ce qui nous transforme? C'est reprendre conscience de cet endroit-là, non pas comme quelque chose qui nous est imposé, ça l'est d'une certaine manière, mais quelque chose dont on va se réapproprier pour qu'on rentre en conscience à cet endroit-là, parce qu'on sait qu'au moment où on sortira de la salle de cérémonie, où le défunt va aller vers une crémation ou une inhumation, on va repartir et on va commencer à cheminer, mais transformer de cette façon-là.
Sylvain va rentrer rapidement.
Très rapidement.
Oui.
On va retraverser tout ça. Et effectivement, c'est une grande chance de t'avoir avec nous, Grégory, parce qu'on se rendre compte qu'il y a tous ces possibles-là. Moi, si j'avais su ça, j'aurais fait tellement de choses avec mes propres défunts. Et c'est quelque chose qu'on doit justement faire circuler, cette information, c'est possible, pour qu'on reprenne possession des funérailles de notre entourage, mais de nos propres funérailles aussi. Je pense que c'est la responsabilité de chacun, à un moment donné, une journée dans sa vie, d'y penser qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, avec qui, quoi, comment. Moi, j'ai commencé à écrire mes propres funérailles. Ça va être un spectacle qui coûte 30 000 euros, je pense. Ah, c'est une vraie production, avec les lumières, avec le texte, avec la scéno, évidemment. Mais c'est important de remettre la mort au centre de la vie aussi, parce que c'est un tel poids. On est tellement sidéré quand ça arrive, par accident ou maladie ou peu importe, qu'on n'a plus l'esprit, le cœur à conceptualiser, à rechercher, à essayer de faire des bons choix. Mais si on a le temps de l'anticiper un tout petit peu, au moins d'y penser, d'avoir des coopératives, des entreprises, des associations, des lieux culturels qui permettent de refaire circuler toutes ces infos, c'est éminemment précieux. Et on est là pour questionner ce sujet tout à l'heure, mais aussi pour brainstormer ensemble sur les possibles encore. Qu'est-ce qu'on peut pousser, qu'est-ce qu'on peut piquer à droite à gauche, et comment on peut s'en saisir pour nous-mêmes.
Merci encore Sylvain Vavran, et merci à vous également.
Merci.
Grégory Nieuviat, conseiller funéraire et célébrant de cérémonie, cofondateur et co-directeur de la coopérative funéraire de Rennes. On vous retrouve tous les deux à 17h30 pour la table ronde sur la créativité et les nouveaux rituels, en compagnie également de Julien Andoujard. Ils ne sont d'ailleurs pas tout seuls à réfléchir cet après-midi. Dans quelques instants, nous serons avec le groupe Philosophie Sarthe pour nous parler de leurs ateliers philo à destination du jeune public. Ce sera juste après une courte pause musicale. A tout de suite sur Radio Alpa.
La première fois, c'est m'en souviens comme si c'était hier, mon frérot. J'ai jamais rien vu de mieux que les coronados. Dans tous les squats, craignos de Ménilmontant, ou à Guingamp, c'était vraiment les plus grands. Jamais rien entendu de mieux que les coronados. Quand le pesant chantait, on aurait dit qu'il pleurait.
Écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
L'alternative.
De retour sur Radio Alpa 107.3 Le Mans, on vient d'écouter Les Coronados, un titre du dernier album des Wampas. Et nous sommes toujours en direct de l'Espal pour la journée de la pensée joyeuse organisée dans le cadre du temps fort vivant-vivante. Et il est l'heure de se poser une question primordiale. Les enfants ne sont-ils pas tous des philosophes? C'est en tout cas le pari que prend le groupe Philosophie Sarthe, philosophée, avec des enfants. Et en restant sur le thème de cette journée de la pensée joyeuse, la vie, la mort et leur rapport, à travers la question du souvenir notamment. Pas facile, me direz-vous, mais peut-être les enfants sont-ils plus doués qu'on croit à cet exercice. Bonjour Anaïs Tempère-Le Breton et Apolline Cabella.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux comédiennes, mais vous êtes également animatrices au sein du groupe GPS, groupe Philosophie Sarthe. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez tout simplement nous présenter un peu cette association ?
Eh bien oui, on peut le faire. Qu'est-ce qu'on peut dire du GPS ? C'est donc effectivement une association qui s'est créée et qui regroupe des passionnés de la philosophie et particulièrement des gens qui sont passés par la fac du Mans et qui ont obtenu ou participé au DU, diplôme universitaire qui existe ici au Mans, qui s'appelle « Concevoir et animer des débats philo avec les enfants et les adolescents dans la cité et dans l'école ».
Parce que ça demande une approche particulière de philosopher avec les enfants ?
Oui, ça demande une approche particulière. On va surtout utiliser des supports différents parce que l'idée de philosopher avec des enfants, c'est pas de leur apprendre les grands textes de Platon, de Descartes ou je ne sais quoi, mais plutôt justement de se questionner sur le sens de la vie.
Ah oui, vous leur faites pas lire du Kant ?
Non.
C'est étonnant.
Il n'y a pas besoin parce qu'en général, c'est eux qui l'amènent tout seuls sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que souvent, ils ont des réflexions tellement profondes que justement, souvent, ça fait de lien avec des grands philosophes qui ont réfléchi aussi à ça de leur côté. Ouais.
Mais alors, si on se base pas sur les grands textes, sur quoi on se base ? Qu'est-ce que vous utilisez pour philosopher avec eux ?
on utilise principalement des supports du type livre. Les albums jeunesse sont très pertinents parce que les histoires posent des questions sur le sens de la vie. Et puis après, on peut utiliser un certain nombre parfois de jeux, d'exercices autour du théâtre. C'est pour ça que nous, on est également comédienne, d'art plastique, de support. On peut venir voir un spectacle. Il y a des spectacles proposés par l'Espal Les Quinconces qui peuvent amener à des sujets philosophiques.
Et alors cette idée justement qu'on ne va pas partir des grands textes, de tout ce qu'on connaît intuitivement de la philosophie à partir du lycée, est-ce que ça implique une autre définition de la philosophie en quelque sorte ?
C'est-à-dire que oui, alors c'est une des grandes questions qu'on se pose. Hein, c'est quoi la philosophie déjà pour commencer ? D'abord la philosophie, c'est se poser des questions auxquelles il n'y a pas forcément de réponse. Et les champions du monde pour se poser des questions, c'est quand même les enfants. Je ne sais pas si vous avez côtoyé un enfant de 3 ans récemment, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi, comment, à quelle heure, avec qui, etc. C'est vraiment l'idée, c'est de questionner le monde dans lequel on vit, et à partir de ce qu'on est, le gros point commun de la philosophie qui traverse les siècles, les âges et qui traverse le monde, c'est l'être humain. Donc à partir du moment où on est un être humain, on peut faire de la philo.
Oui, donc les enfants se posent toujours plein de questions. Je disais tout à l'heure en introduction, est-ce que les enfants ne sont pas tous philosophes ? C'est une question qui peut se poser.
En tout cas, ils soulèvent des grandes questions philosophiques, et par leurs questions, souvent, ils peuvent vraiment nous déstabiliser, nous aussi, dans nos postures d'adultes, parce qu'ils vont venir interroger quelque chose sur lequel on ne se questionne plus depuis très longtemps. Et donc, ça amène la réflexion philosophique, et en ce sens-là, ils sont parfaitement philosophes. Ouais.
Ah oui, donc vous-même, en tant qu'adulte qui pratiquez la philosophie, qui est diplômé, vous apprenez vous-même de ces jeunes philosophes ?
Oui, tout à fait. On est régulièrement surpris dans nos ateliers par la profondeur des échanges. Et en effet, voilà, ils ont souvent une telle pertinence qu'on retrouve dans leur discours des choses qui ont été écrites, en effet, par des grands auteurs philosophes il y a très longtemps.
Et donc, vous animez un atelier philosophique en 3 temps sur cette journée de la pensée joyeuse. Comment est-ce que vous l'animez ? Qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 temps d'atelier ?
Alors, on a un premier temps à 15h30, donc dans pas très longtemps, qui est une lecture d'album, qui évidemment parle de notre thématique de la mort, du vivant, de la mémoire. Première lecture d'album d'environ 30-40 minutes avec une première petite question philosophique à la fin des lectures. On aura un deuxième temps de lecture à 16h30 avec d'autres albums. Et donc pareil, un petit échange philosophique. Et ensuite à 17h30, là on a un grand atelier philosophique qui va durer jusqu'à 19h. Où là, on prendra vraiment le temps de parler de ces questions-là, de qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que le vivant,
le souvenir,
le deuil, pourquoi ne sommes-nous pas immortels, avec un dernier temps final de petites créations artistiques en lien avec la discussion philosophique qu'on aura eue.
Alors effectivement, les thématiques qui vont être abordées à travers les albums, c'est des thématiques qui entourent cette journée de la pensée joyeuse. Et donc notamment la mort, c'est pas une notion facile, c'est un sujet de réflexion qui peut mobiliser l'affect. Est-ce que c'est difficile à aborder avec le jeune public ou pas forcément ?
Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. Un peu les deux, j'allais dire, c'est qu'effectivement, c'est difficile, mais je crois que ce qui nous bloque surtout, c'est nos propres appréhensions et notre culture d'adulte. En fait, on a appris à beaucoup, je vais inventer un mot, mais à beaucoup tabouiser la mort, là où les enfants ont beaucoup moins de tabous et de limites que les adultes. C'est à la fois difficile parce que nous, ça nous pousse un peu dans nos retranchements. Ça veut dire aussi, nous, aborder la chose avec beaucoup de simplicité. C'est là-dessus où c'est facile, c'est que les enfants, ils peuvent avoir des réflexions qui sont très spontanées et qui amènent un dialogue qui peut être simple et sans tabou, sans se mettre de barrières, etc.
Sur la question du souvenir aussi, parce que j'imagine qu'on n'a pas le même rapport à la mémoire quand on a 6 ans et quand on a toute une vie d'adulte derrière nous. Vous attendez donc à être peut-être un peu surprise par ce qui va pouvoir sortir sur ces ateliers ?
Normalement, oui. Hein.
On devrait être surprise, oui.
Ouais.
Et on peut est-ce qu'il faut avoir participé au premier pour pouvoir participer au suivant des 3 temps de l'atelier ou pas forcément ?
Alors non, pas forcément. C'est sûr que c'est mieux d'avoir participé aux 3 temps, ça nous fait plaisir. Mais c'est tout à fait possible, en effet, d'intégrer le dernier temps sans avoir vu les lectures, parce qu'on refera un résumé quand même des lectures qui ont été faites sur les 2 temps d'avant, parce que ça va quand même nous servir de support pour amener la discussion. Et puis ceux qui n'ont ne peuvent pas revenir à 17h30, peuvent très bien venir malgré tout aux lectures. Voilà, ça reste un temps sympathique de lecture avec un premier questionnement philosophique.
Et donc, il s'adresse aux enfants de 6-10 ans. Je vous remercie, Anaïs Tempère-Lebreton et Apolline Cabellan, animatrice du groupe Philosophie Sartre, vos ateliers philo avec les enfants sur la journée de la pensée joyeuse à l'ESPAL. C'est ce samedi 30 mai à 15h30, 16h30 et 17h30. Mais contrairement à ces jeunes esprits, tout le monde n'appréhende pas la mort avec autant de lucidité rationnelle et platonique. Nous autres pauvres adultes y faisons entrer beaucoup plus d'affect, au point qu'il nous est parfois difficile de passer l'étape du deuil, de nous remettre de la mort d'un proche. Nos prochaines invitées se proposent de servir de guide.
Vous écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
L'alternative.
Parce qu'il est douloureux, le deuil peut conduire à se renfermer sur soi, à taire sa souffrance, à s'isoler. Les associations de l'Arc-en-Ciel et Happy End Asso invitent au contraire à se regrouper pour parler ensemble de nos expériences de deuil. Les deux associations sont présentes sur cette journée de la pensée joyeuse pour libérer la parole autour de la mort, du deuil, de la mémoire et de la résilience aussi. Bonjour Mélanie Labrosse et Mélanie Langlais.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux bénévoles à l'association L'Arc-en-Ciel, mais également ambassadrice de Happy End Asso en Sarthe. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire deux mots sur ces associations ?
Je vais commencer avec L'Arc-en-Ciel, peut-être.
Alors, l'association Arc-en-Ciel, justement, elle accompagne les personnes dans leur parcours de deuil. On accompagne aussi bien en individuel qu'en collectif, que ce soit sur les enfants, sur les adultes. En fait, c'est intrafamilial. Et on peut aussi intervenir au sein des entreprises lorsqu'il y a des crises suicidaires qui peuvent se déclarer. Donc voilà.
Et Happy End Asso, c'est un petit peu complémentaire ?
Disons que l'Arc-en-Ciel, c'est une association qui est locale. Happy End Asso, c'est une association qui est nationale, avec des événements qui diffèrent. Aujourd'hui, alors depuis maintenant 2 ans, on anime des apéros de la mort sur le Mans. Voilà, ça vise à libérer la parole autour de la mort, mais lors d'un apéro, voilà, dans un bar.
Alors, on va revenir sur les apéros de la mort. Ouais. D'abord, peut-être dire que l'Arc-en-Ciel crée des accompagnements au deuil. Qu'est-ce que ça veut dire, ces accompagnements au deuil, concrètement ?
Alors, tout simplement, déjà, vous êtes dirigé vers nous. Vous pouvez faire appel à nous directement et vous rencontrer notre chère présidente, donc Marie-Christine Priolo. Et donc, on vous propose un accompagnement qui peut aller sur 10 séances, en individuel ou en couple, la plupart du temps. Et là, on vous écoute sur votre parcours, sans jugement, sans a priori, vraiment accueillir et laisser vraiment circuler toutes les pensées.
Avec des intervenants qui sont formés à cet accompagnement.
Tout à fait. Nous sommes tous... Alors, l'équipe des bénévoles qui est au sein de l'Arc-en-Ciel, nous sommes tous formés pour l'accompagnement au deuil. Et une autre partie où on est accompagné. On accompagne sur le deuil traumatique.
Et donc Happy End Asso qui organise ces apéros de la mort, qu'est-ce que c'est en fait ?
C'est quoi les apéros de la mort ? Eh bien, on se retrouve de 19h à 21h en général dans un bar. Et puis on échange autour de la mort et du deuil. On libère la parole autour de la mort. C'est un lieu où il n'y a aucun tabou autour de la mort.
Mais ce sont des initiatives qui consistent donc à rassembler les gens autour du deuil. Pourtant, le deuil, on se dit a priori que c'est quelque chose qui se vit seul. On a besoin de solitude. On est dans un état émotionnel qui ne se prête pas forcément à rencontrer des gens. C'est un mauvais réflexe, selon vous, donc, de s'isoler quand on est en deuil ?
Mauvais réflexe, non. Après, je pense qu'il y a des... C'est pas je pense, il y a des étapes aussi qui sont nécessaires. Disons que sur des apéros de la mort, effectivement, ça va être un peu plus léger. Parfois, on rencontre des personnes qui ont fait un parcours individuel, après collectif avec l'Arc-en-Ciel, qui ont donc fait déjà un chemin. Il y a du temps qui est passé. Et puis voilà, ils veulent continuer d'échanger. Et puis voilà, c'est un peu plus léger de venir à un apéro de la mort.
Parce que qu'est-ce qui se passe pendant ces rencontres ? Est-ce que chacun livre son témoignage ? Est-ce qu'il y a des échanges ? Comment ça fonctionne ?
On est libre d'échanger ou non, finalement. Et puis voilà, parfois ça tourne autour du deuil. D'autres, c'est on se questionne sur la mort. Parfois, il y a des thématiques qui reviennent. Ça peut être les signes. Parfois, c'est comment est-ce que je laisse voilà, une trace même on tourne autour des tatouages, etc. Enfin, il y a plein en fait de sujets qui émergent. Et puis, on prend. Et puis, ça, c'est comme ça que ça crée des belles choses parce qu'on pleure, on rit, mais on passe toujours un bon moment.
Oui, parce que l'ambiance n'est pas forcément triste alors sur ces apéros.
Pas du tout, pas du tout. Les apéros de la mort, bien au contraire, ça peut être amené avec légèreté, avec du sourire, avec de l'échange et surtout avec notre verre. Donc ça, c'est quand même pas mal. Mais non, il y a des moments où on peut accueillir aussi, comme disait si bien Mélanie, avec les larmes. Mais on préfère, par exemple l'association L'Arc-en-Ciel, le faire autour d'un café rencontre. Là, on va vraiment dédier ça au deuil proprement dit. Que l'apéro de la mort, non. On peut aborder ça avec le sourire, avec le rire et surtout dédramatiser le sujet.
Et vous constatez une vraie évolution de l'état d'esprit des personnes entre le moment où ils viennent pour la première fois, que ce soit à l'Arc-en-Ciel ou aux apéros de la mort, et après un ou plusieurs temps de rencontre. Il y a une vraie évolution que vous constatez ?
Alors moi, je vais parler par exemple du parcours adulte qui se passe à l'heure actuelle. Du début du tout premier atelier où on sent encore vraiment le deuil qui est intrinsèque, quoi. Il est vraiment à l'intérieur et la souffrance est vraiment palpable. Là, on arrive sur la fin. On est sur le cinquième atelier et on sent vraiment une ouverture, un pas à aller vers, aborder la perte de l'autre sous un autre angle, vraiment l'allier à ce parcours de vie. Et moi, je trouve ça juste fantastique.
Et donc, vous êtes présent sur cette journée de la pensée joyeuse. Qu'est-ce qui vous a amené à y participer ?
Sylvain, parce que...
Sylvain Vavran, pardon.
Puisque, en fait, on a animé un apéro de la mort le mois dernier, et Sylvain nous a fait l'honneur de sa présence, puisqu'il faisait son vernissage le samedi d'après. Donc, j'ai découvert Sylvain à ce moment-là, et c'est la raison de notre présence, en fait, aujourd'hui. Il est venu avec la chargée des relations au public, Emma Grison, et qui a donc échangé avec sa direction en disant « Waouh, ouais, si on est invité à Pienne, et puis l'Arc-en-Ciel, et puis voilà, donc en fait, on est là, donc on remercie énormément les quinconces, on est ravis d'être là. Merci. Donc,
vous tenez chacun un stand, un pour l'assaut Arc-en-Ciel et un pour l'assaut à Pienne, c'est ça ?
Tout à fait, mais on est tout collé aussi.
Oui, on redirige, par exemple, des personnes qui peuvent venir à l'apéro de la mort, ne connaissent pas forcément une association locale. Et puis la petite particularité aujourd'hui, c'est qu'à Pienne, l'assaut a sorti un jeu de cartes pour échanger en famille, entre amis, autour de la mort, se questionner autour de la mort, des funérailles, etc. C'est toujours intéressant. Moi, je l'ai testé le week-end dernier avec des copines et ça a duré des heures et des heures où, en fait, finalement, on découvre des choses sur des gens avec qui on vit quotidiennement. On ne sait même pas comment est-ce qu'ils veulent mourir, la chanson qu'ils veulent peut-être à leur enterrement. Donc, en fait, ça fait émerger, ça libère la parole. Donc, je présente ce jeu aujourd'hui et je le vends aussi aujourd'hui.
Et donc on peut aller vous rencontrer à l'Espal sur cette journée de la pensée joyeuse. Et puis ensuite, on peut vous retrouver que ce soit au local de l'association Arc-en-Ciel ou bien aux prochains apéros de la mort. Quand est-ce qu'ils auront lieu d'ailleurs ?
Le prochain, il aura lieu le 30 juin à 19h à la brasserie 72 que je salue, que je remercie de nous accueillir avec leur ouverture.
Merci Mélanie Labrosse et Mélanie Langlais, bénévole à l'association L'Arc-en-Ciel et ambassadrice de Happy & Asso en Sarthe. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
L'alternative.
Que sonne le glas, c'est la fin de cette émission Escalpade en direct de l'Espal pour la journée de la pensée joyeuse dans le cadre du temps fort vivante. Merci à la scène nationale Les Quinconces et l'Espal pour l'organisation de cette journée et pour sa collaboration à cette émission. Merci à nos invités, Virginie Bocard, directrice de la scène nationale Les Quinconces et l'Espal, Julie Lecomte, sa directrice adjointe, Sylvain Vavran, artiste plasticien et taxidermiste pour son exposition Reliqua, exposée à l'Espal jusqu'au 11 juillet, Grégory Nieuviard, cofondateur de la coopérative funéraire de Rennes, qu'on retrouve à 17h30 à l'Espal avec Sylvain Vavran et le comédien Julien Andoujar pour une table ronde sur les nouveaux rituels funéraires. Anaïs, comment ? Je vous laisse. Tempère le breton. On avait changé d'invité entre temps, c'est pour ça que j'avais pas le bon sur ma conclusion. Et Apolline Cabellane, animatrice du groupe Philosophie Sarthe. Deux prochains ateliers philo pour enfants sont prévus à 15h30, 16h30 et 17h30. Et enfin, donc trois ateliers, pardon. Enfin, Mélanie Labrosse et Mélanie Langlais, bénévoles de l'association Arc-en-Ciel et Happy & Asso. Leurs stands sont présents toute la journée à l'Espal si vous voulez les rencontrer. Merci bien sûr à Evan Getz pour la réalisation technique de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. C'était Charlie Pless sur Radio Alpa, bien évidemment.
Venez d'écouter à l'instant Radio Alpa en escalpade,
présenté par Charlie Pless.